Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée. L'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Patricia Martinez, édition Passiflore. Alors c'est une voisine, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. Bonjour Patricia, comment allez-vous?
Bonjour Jean-Philippe, je vais très bien, merci.
Bonjour, et Patricia n'est pas venue seule, elle nous a amené Jean Darrault qui est écrivain. Et aujourd'hui, il va se passer une lecture, hein. On va en parler dans l'émission. Bonjour Jean, on est enchanté
bonjour,
de vous recevoir.
Merci de me recevoir.
Voilà, merci, bienvenue. Donc on va parler un peu littérature, lecture. On va d'abord écouter le Flash Info National et International et ensuite, dans la première partie de cette émission, nous allons découvrir nos invités. À tout de suite. Et voilà, c'est parti pour le début de cette émission. Alors, l'habitude ici, c'est de demander un petit peu aux gens trajectoire personnelle. On va commencer par Patricia, parce que ça va être sûrement un peu moins long qu'avec Jean, parce que dis Jean que Jean, c'est intéressant, c'est la globalité, donc son histoire fait partie de son art. Alors, Patricia, parlez-nous un petit peu de vous.
Alors, ça va être très rapide, hein. Les éditions Passiflore sont à Dax depuis 2009. Elles publient des ouvrages sur le Sud-Ouest et notre culture régionale, mais également de la littérature, et ça on y tient énormément. Et quand c'est de la littérature, c'est de la littérature de qualité. C'est ce qu'on souhaite, voilà, transmettre, et on se bat pour ça, et on s'emploie à faire des livres qui peuvent émouvoir et intéresser un large public. Donc aujourd'hui, ça fait partie des jours de bonheur, pour un éditeur, c'est le jour où il reçoit un auteur.
Voilà.
Et aujourd'hui, les éditions Passiflore ont le grand plaisir de recevoir un écrivain. Je fais souvent la différence entre un auteur et un écrivain. Donc aujourd'hui, on reçoit un écrivain, il opine du chef, qui s'appelle Jean Darrault. Et c'est pour moi un jour de grand bonheur dans notre métier d'éditeur.
Très bien. Alors, parlons un petit peu là, justement, de votre métier d'éditeur. Comment ça se porte, le monde de l'édition? On peut se poser la question, parce qu'avec le numérique, avec des tas de choses qui semblent plus indispensables que la culture, comment ça se porte l'édition?
Alors, c'est compliqué, mais ça a toujours été un métier compliqué. On est un maillon de la chaîne du livre. On est un maillon important. Ça, les gens ne le ressentent pas toujours, mais ne le mesurent pas toujours. Mais je pense que Jean Darrault ne dira pas le contraire. L'éditeur, c'est un filtre. L'éditeur, c'est quelqu'un qui participe à l'élaboration de ce qu'on appelle un objet livre. Objet dans le sens de faire quelque chose de beau. Quelque chose qui va faire un chemin.
Une œuvre.
Et l'éditeur est là pour faire un chemin à un texte.
Oui, voilà, c'est ça. On a eu une petite discussion hors antenne à ce sujet, et c'est là que je me suis dit tout à coup, en discutant avec Patricia et Jean, que je dis, un éditeur, c'est un petit peu comme le producteur pour la musique. Il y a un partenariat qui se crée entre un artiste, et c'est pas juste une marque de livre. Voilà, un éditeur, hein, c'est bien plus que ça. Voilà.
C'est un choix au départ, un choix de texte, un choix d'écrivains avec lesquels on a envie de travailler, ou pas, parce que parfois, même si un texte nous plaît, ça s'arrête parce qu'on n'a pas d'atome crochu avec l'auteur. Il faut que c'est un duo, on travaille main dans la main pour sortir un livre qui plaira et à l'écrivain et à son éditeur pour l'amener le plus loin possible, parfois à l'étranger, parfois sur d'autres supports de communication. On va en parler, je pense.
Bien sûr.
Si je peux me permettre, c'est beaucoup plus qu'un duo. Pour moi, c'est un couple. C'est-à-dire, on met un enfant au monde. Et donc, il y a deux parents, on est deux parents d'un livre, et effectivement l'éditeur est indispensable parce qu'il participe, je dirais, à la mise au monde. C'est presque un accoucheur pour que le bébé soit dans le meilleur état possible pour arriver à la vie. Mais ça suffit pas, parce que l'éditeur, il va devoir aussi il va élever le livre comme un enfant. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis un livre au monde, ça a l'air d'être fini, mais pas du tout. Il faut l'élever, il faut le défendre, il faut le porter, il faut le faire grandir. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt des parents.
Oui, d'accord.
J'avais pas osé.
Ben voilà, il peut se le permettre, il sait de quoi il parle. Il va de son point de vue à lui, c'est toujours intéressant, forcément. Alors Jean, parlons un petit peu de vous, si vous voulez bien.
Oui, ben moi, c'est, je veux dire, j'ai beaucoup de recul par rapport. Et donc, j'ai commencé à écrire il y a 50 ans exactement. Et donc, je dis des fois, je suis un homme de lettres. C'est, même si ça paraît prétentieux, c'est parce que j'ai commencé dans une entreprise de vente par correspondance.
Oui.
Un petit peu par hasard, je me suis trouvé à devoir écrire les lettres, toutes les lettres en réponse à la clientèle. Donc, j'ai écrit beaucoup de lettres types. Et je me suis aperçu à cette occasion, alors que je n'avais pas fait d'études particulières là-dessus, que je savais écrire, enfin que ça se passait bien. Et j'ai continué avec différents métiers de l'écriture. Hein. J'ai été concepteur, rédacteur, publicitaire, j'ai été journaliste, et puis j'ai même été éditeur. Et puis bon, ben, l'âge venant, j'ai pris un peu ma retraite de tout ça, mais pas de l'écriture ni de la lecture. Et donc j'ai écrit plusieurs romans là depuis quelques années. Alors on me dit parfois que je suis un vieil auteur émergent, et puis donc bah, j'avance, et je pense que aujourd'hui j'ai des choses à partager quoi, qui m'intéressent, que je découvre, et donc c'est parfois un petit peu historique, souvent historique, c'est quelque chose que je découvre et que je veux faire partager aux autres.
Oui, alors là, voilà, pareil, en discutant avec vous, là, je me suis rendu compte que voilà, on pourrait penser que nous n'avons que deux invités dans le studio. En fait, il y en a un peu plus, hein, parce que vous êtes pluriel, on en a parlé, vous n'êtes pas seul.
Oui, oui, non, non, mais je ne suis pas seul, parce qu'effectivement, j'ai commis un livre il y a quelques années, sous un nom d'emprunt, qui est le nom d'une femme, qui est Violette Ayot. Donc, si je peux raconter l'histoire, j'ai été éditeur et j'avais effectivement édité d'abord des livres d'auteurs qui étaient pluriels, qui avaient par exemple deux langues ou deux modes d'expression, le dessin et l'écriture, la photo et l'écriture. Mmh. Et puis on reçoit un très beau texte d'une femme et puis on s'est dit, mais ça on ne peut pas le mettre dans cette collection, on va créer une nouvelle collection qu'on va réserver aux écrits de femmes. Et donc on l'a appelé Main de femme. Et on publie ce premier texte qui s'appelait Rouge comme un cœur dans la bouche de Dieu, d'Isabelle Hasbrouck. Et puis les mois passés, on n'arrivait pas à trouver un autre texte. Et un jour, je me suis dit, bon, ça ne peut pas durer. J'entendais la voix de mon père qui disait, à partir de deux, c'est le pluriel.
Oui.
Et donc c'était ridicule, une connexion avec un seul titre.
C'est
donc
vrai.
J'ai écrit ce petit texte, L'homme semence, et j'ai inventé son autrice. Et puis c'est parti comme ça, ça nous a complètement dépassés. Mmh. Et il m'a fallu effectivement 17 ans avant de faire ma reconnaissance en paternité.
Très bien. Voilà, bah c'est intéressant. Alors, autant, c'est vrai que des fois, des femmes ont dû se faire passer, je sais pas, on peut penser à George Sand par exemple.
Oui, bien sûr.
Ça peut être compliqué de se présenter en étant comme une femme. Voilà, donc là, mais c'est bien. Vous avez donc une femme en vous et vous l'assumez. Et c'est une chose qui est vraiment pas désagréable à entendre de temps en temps.
Oui, mais j'ai à la fois une femme en vous, mais ça suffirait peut-être pas. J'ai aussi et les femmes autour de moi, c'est-à-dire que on n'est jamais seul dans la vie. D'abord, on a une mère qui vous porte, qui vous baigne, qui vous porte. Et puis après, on a tout au long de sa vie, enfin pour moi c'était comme ça, un certain nombre de femmes qui vont vous nourrir la vie, quoi, hein, par leur amour, par différentes choses, par les échanges qu'on peut avoir, y compris les disputes, mais tout ça nous nourrit. Puis on a des enfants, je veux dire, jusqu'à mes filles, et ma fille en particulier, et mes filles, ce que j'appelle un certain nombre de jeunes femmes qui ont pu qu'on protège parfois, c'est tous ces gens-là vous nourrissent. Et puis donc ce livre, il est sorti de moi, de ma main, mais en fait c'est toutes ces femmes qui l'ont écrit.
Ouais, c'est un héritage. Alors justement, cette position de la femme qui nourrit au sens propre du terme, combien de grands cuisiniers ont dit: ah, mais moi, j'ai appris la cuisine en admirant ma mère ou ma grand-mère faire la cuisine.
Oui, oui.
Hein, donc, cette genèse, elle existe vraiment pour des tas de choses.
Oui, ben, de toute façon, je peux aussi parler de ma mère. Je ne vais pas en parler tout le temps, mais je veux dire, je revois encore la qualité d'écriture de ma mère au niveau du graphisme, mais aussi de l'orthographe et de beaucoup de choses, du choix des mots. Et je pense que ça m'a sûrement nourri de ce côté-là.
Alors on va parler pas forcément que d'un seul livre, parce que vous en avez écrit plusieurs. Hein. Alors il y a une série qu'on appelle Les Femmes Courage. Alors, je ne sais pas si c'est le nom officiel ou si c'est officieux.
Hein. Non, cette série, elle porte plusieurs noms.
Ouais, voilà.
La rose sourit. Parce qu'il y a une certaine connotation. Femmes Courage, c'est vrai que ce sont des femmes qui ont énormément de courage et qui se battent énormément. Ouais. Voilà.
Comme genre beaucoup de femmes d'ailleurs.
Oui, absolument. Oui. Et sur plusieurs tableaux.
Oui.
Et Jean, bon, préférerait qu'on les appelle autrement.
Oui,
mais,
oui, mais c'est pas grave.
Voilà.
Ah, mais
ça fait partie de nos discussions.
Parce que, voilà, ouais. Non, c'est vrai qu'on dans cette série de livres, on a des femmes, ce sont elles qui parlent. Hein.
Oui.
Je les mets en voix. Moi, c'est toujours, je me mets dans la peau d'une femme et je la laisse parler, on
oui.
va dire.
Oui.
J'entends sa voix et j'écris presque sous sa dictée. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et donc, ces femmes, c'est des femmes qui se trouvent dans ces différents livres, dans des moments difficiles, quoi, face à l'adversité, les conflits, la disparition des hommes du temps de conflit, je veux dire, la difficulté face à des moments, je dirais, particuliers de la vie, ou face à l'adversité, je dirais, du temps, hein, je veux dire, la tempête, le monde de la mer, etc. Et donc, ces femmes, c'est des femmes qui se battent pour la vie, et qui ont aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de solidarité entre femmes. Les femmes, elles se groupent, elles produisent, elles font une réponse à tout ça, qui est souvent intelligente et collective, quoi. C'est pas toujours le cas des hommes, qui sont parfois très individualistes. Là, les femmes, elles ont une réponse face à une difficulté, qui est souvent une réponse collective et en général intelligente.
C'est un sujet important et intéressant, on se retrouve tout de suite après ça. Parlons un petit peu de vos écrits, parce que vous en avez plusieurs, hein. Donc j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs. On va faire une petite aparté sur celui dont on parlait, la mère du thé, hein, parce qu'il est assez intéressant quand même, hein, puis il y a une actualité par rapport à ça, me disait Patricia. Oui, vous disiez que... Alors comment dire, est-ce que l'écriture c'est un pot qui se remplit lentement et un jour il se vide à un certain moment, et donc le moment est arrivé pour vous peut-être un peu tard, mais on en a parlé un petit peu, comment est-ce que vous vivez ça?
Oui, je crois qu'effectivement, enfin pour ce qui me concerne, je peux mettre 25 ans à écrire un livre, c'est-à-dire je vais emmagasiner des choses... Pendant longtemps, ça mûrit, c'est comme du compost, quoi. Ça composte, et puis un jour, ça sort, parce que c'est prêt, quoi. Et donc, la mère du thé, je pense que je l'ai porté longtemps. Alors, parmi les choses que j'ai pu écrire, la plupart sont écrites à la première personne du féminin, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, depuis l'homme semence. Mais j'ai aussi écrit un roman qui s'appelle La mère du thé, qui est première personne du masculin. Donc c'est un garçon, un jeune homme, un petit garçon qui naît en Chine, et sa mère meurt en lui donnant la vie. Et donc c'est toute une trajectoire de vie, c'est à la fois un livre de voyage, c'est une traversée de la Chine, c'est un livre sur le thé, parce que à chaque moment de la vie, il y a le thé dans cette histoire, parce que je ne bois pas de café, je m'excuse, mais je bois du thé, et donc j'avais quelque chose à dire sur le sujet, j'avais quelque chose à partager, et donc c'est une longue histoire qui est un roman initiatique, puis un roman du bonheur. Je voulais parler du bonheur parce qu'on est tellement dans un monde gris et noir où chacun met en avant ses malheurs, et je voulais dire en particulier à mes garçons que le bonheur, c'est aussi faire attention à l'autre, en particulier dans la relation amoureuse, c'est s'intéresser à l'autre, creuser ce qu'il est pour comprendre ce qu'il peut avoir à partager, tout ce qu'on a à mettre en avant ensemble pour le bonheur. Et donc voilà, c'est un livre de bonheur, c'est un livre d'amour, et donc il a écrit celui-là à la première personne du masculin. Et c'est vrai que j'y ai mis beaucoup de moi-même, c'est vraiment une fiction, mais il y a beaucoup de choses... qui sont autobiographiques, bien sûr.
Oui, ça c'est souvent, ça c'est le...
Et donc on le présente cet après-midi dans un salon de thé.
Évidemment, un salon de thé.
Oui,
hein.
Voilà.
C'est immanquable.
Il y a deux rendez-vous cet après-midi.
Oui.
Il y en a un dont il y a eu un petit peu de communication sur DAX. Ça, puis c'est une communication nationale, c'est la nuit de la lecture aujourd'hui.
La nuit de la lecture,
ce soir.
Voilà. Oui.
Donc la nuit de la lecture à DAX, elle se partagera avec Jean Darrow à la bibliothèque à partir de 18h30. Mais c'est vrai que la mère du thé, il y avait longtemps que j'avais envie d'un petit partenariat avec un salon de thé. Un salon de thé, et puis quelqu'un qui aime le thé, qui va proposer à sa clientèle une vingtaine ou une trentaine de thés différents, de toutes les couleurs, du blanc au noir, en passant par le bleu, le vert, etc. Donc le rose. Et donc je lui ai proposé qu'il y ait une rencontre, un échange autour d'un livre qui s'appelle La mer du thé. Oui. Amer d'amertume. Hein.
Bien voilà. Sûr, oui. Ah, c'est bien de le préciser.
Oui,
c'est
tout à fait, parce que voilà, radio, phonétiquement, ça pourrait être la mer. Oui. Non, c'est la mer. L'amertume ça du thé, ben, voilà.
La mère, l'eau, ça peut être aussi la mère voilà. Féminin de père. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs.
Oui, mais ils y sont tous les trois.
Ils fait, y sont tous les trois,
comme
voilà.
Comme je l'ai dit, ce garçon, sa mère disparaît en lui donnant la vie, mais elle sera présente quand même. Et puis, ce garçon, il va naviguer aussi, donc la mère sera très présente. Et il ira notamment au Groenland, c'est pour ça que c'est aussi d'actualité. Parce que c'est un voyage que j'ai préparé pendant plusieurs années, qui m'a permis de rencontrer Paul-Émile Victor et puis Jean Mallory en particulier, qui m'avait invité à rencontrer lors d'un congrès des Esquimaux au Havre. Il m'avait invité à venir. Et donc, pour moi, le Groenland, aujourd'hui, avec ce qui s'y passe, je veux dire, ça me touche beaucoup.
Oui, je comprends, oui. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, comme quoi, des fois, on en a parlé tout à l'heure, un petit peu hors antenne, qu'est-ce que c'est un titre, d'où ça vient, est-ce que ça se choisit, est-ce que ça surgit, apparemment, ça se discute, hein, c'est un travail collectif, ce choix d'un titre, on en a parlé entre l'auteur et l'éditeur.
Entre l'auteur et l'éditeur, il y a un contrat. C'est un investissement de l'éditeur par rapport à un texte que lui confie un auteur. Une fois que le texte est confié pour en faire un livre, effectivement, la conception de la couverture et du titre revient à l'éditeur. Mais ça, moi, ça me choque un peu. Voilà. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On choisit le titre, on donne notre avis. Quand un titre nous semble pas forcément collé tout à fait à l'histoire, qu'il pourrait... Bon, voilà. Donc, on échange sur le titre, on échange sur la couverture. Et on fait ensemble, on donne naissance ensemble.
Voilà, c'est ça.
À un livre.
Oui.
Pour qu'il grandisse le plus possible, qu'il aille le plus loin possible, qu'il touche le plus en plus de gens possible.
Oui, bien sûr. On voit qu'on utilise quand même un champ lexical assez particulier. Naissance, semence, mère, etc. On est dans un monde particulier. C'est le vôtre, un peu.
Oui, de toute façon, je veux dire, on vient tous d'une femme, d'une mère, donc on peut difficilement s'en passer. Et puis, alors l'amertume, pourquoi l'amertume ? Il faut lire le livre, mais c'est vraiment sur l'amertume. Moi, j'aime beaucoup le thé amer, voilà, tout le monde n'aime pas ça. Il y a beaucoup de vieux chinois, mon arrière-grand-père chinois bourrait sa tasse de thé complètement plein, et ça devient du coup très, très amer. Et ce qu'il aimait, c'est qu'il disait, c'est tellement amer que ça donne l'impression d'être sucré.
Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Bon, chacun. Moi, j'aime bien le fumé, le thé fumé, voilà, j'aime bien. Mais c'est vrai que s'il est très infusé, ça devient un peu âpre, un peu difficile à boire des fois. Mais bon, c'est de l'amertume. C'est déjà le moment où on va faire notre deuxième pause. On va
déjà.
Le flash info local, un petit peu de musique, et on retrouve nos invités. Non, vous inquiétez pas, on ne va pas vous lâcher comme ça, on a encore des choses à dire. À tout de suite.
Ok.
Et nous voilà de retour. Alors, on va compléter l'information qu'on est en train de vous donner tout à l'heure sur cet événement-là qui se passe par rapport dans ce salon de thé. Alors, ça se passe où et à quelle heure ?
Alors, à 15h30, nous vous donnons rendez-vous dans le nouveau salon de thé qui vient d'ouvrir à place de la cathédrale près du soldat romain et de son chien. Et ça s'appelle Tiapo.
D'accord. Voilà,
donc c'est un salon de thé sino-polynésien, et donc ça nous semblait être le cocon parfait pour passer un moment autour d'une tasse de thé et autour du livre de Jean Narro qui s'appelle « La mer du thé ».
La mer du thé. Et alors, bon, tout à l'heure, ce soir, il se passe quelque chose. Il y a cette fameuse nuit de la lecture, et c'est la 10e édition cette année.
Oui.
Alors c'est un événement national.
Absolument, c'est un événement national qui parle de ville et de campagne. Et nous, Passiflore, on a proposé à la direction de la bibliothèque de Dax de recevoir Jean Darro avec son dernier livre qui s'appelle « Le sol mort ».
Oui.
Voilà, donc c'est un ouvrage que Jean présentera en particulier, par rapport à, on parlait de la trilogie sur les avec des histoires de femmes tout à l'heure, voilà, c'est le dernier né, puisque Le sol mort est de la suite de L'homme semence.
Voilà, oui, donc alors c'est une trilogie, mais il y en a une quatrième histoire qui s'est glissée entre la première et la deuxième, c'est un peu ça La chronologie, s'il y en avait une.
Donc, en fait, la trilogie, c'est L'homme semence, L'enfant don et la femme il. Mmh. Donc chacun a sa part. Oui. Donc on est dans trois, on est à la fois dans trois lieux. Donc l'homme semence, on est en Haute-Provence. L'enfant don, on est dans une très haute vallée des Pyrénées. Mmh. Et puis la femme il, on est dans une île de Bretagne. Oui. Donc on a trois univers différents. Mais c'est aussi trois moments historiques. Donc j'aime bien partager des choses que j'ai pu découvrir. Mmh. Et puis le Saule Mort, parce que bon, l'homme semence, il est sorti et quand il a été édité, Violette Ayot, elle était décédée depuis longtemps. Mmh. Et donc les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme ? Et puis les enfants ? Et puis, mmh. et puis lui, Jean, là, pourquoi il est parti ? Et donc on me disait, on ne peut pas savoir la suite. Et j'ai dit, ben non, et, de toute façon, elle n'existe plus. Et puis quand j'ai fait ma reconnaissance en paternité, donc 17 ans après, mmh. Je me suis dit, mais maintenant je peux leur répondre. Parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai quand même pris la peine, quand j'ai créé mon personnage, mmh. de dérouler toute sa vie, même si ce n'était pas dans le livre.
Oui.
Pour qu'elle puisse, elle, quand elle dit des choses, ça s'appuie sur un vécu. Mmh. Et donc, finalement, donc le Saule Mort, c'est un peu la réponse. Donc, elle continue à vivre, donc Violette Ayot, et elle raconte une deuxième partie de sa vie mmh. qui va se passer en Algérie, au moment de la colonisation en Algérie. Je voulais parler de la colonisation parce que c'est un sujet brûlant que l'on a aujourd'hui en Palestine, mais qui s'est fait aussi au nord de la Amérique et en sud de l'Amérique. Mmh. Et je voulais dire des choses sur ce sujet. Mmh. Et donc, dans le Saule Mort, on a donc la suite de la vie de Violette, hein, mais avec justement une approche de la question de la colonisation, mmh. des violences qu'il peut y avoir autour de ça, et des rencontres qu'il peut y avoir entre des peuples, mmh. parce qu'en Algérie, on était dans une...
C'est tendu avec l'Algérie, hein, d'ailleurs.
Oui, une colonisation mmh. de peuplement, mmh. et ça a gardé des traces douloureuses.
Mmh. Alors, c'est la question qui vient à l'esprit en vous écoutant parler, y a-t-il donc des gens qui ont vraiment cru que cette Violette existait ?
Ah ben alors complètement, je veux dire, en fait je me suis tue parce que très très vite, les premières lectrices ont dit il n'y a qu'une femme pour avoir écrit ça.
Eh oui.
Ce qui fait qu'on on l'a pas su.
C'est un sacré compliment ça, voilà. C'est un sacré compliment.
Alors c'est un compliment mais c'est un enfermement, c'est-à-dire j'ai pas pu dire, je pouvais pas dire aux lectrices, oui, mais oui. Non, ma petite dame vous vous trompez, vous êtes idiote, donc c'était presque, ça aurait été blessant, donc on s'est tue. Et puis, je me suis dit, après tout, c'est pas grave, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toutes ces femmes dont je parlais tout à l'heure. Mmh, mmh. Voilà. Et donc, et puis, il y a tout un tas de gens qui se sont emparés du livre, en particulier les traductrices. Je veux dire, j'ai édité, quand j'étais éditeur, Nancy Houston, et une des premières choses qu'elle m'a proposé, elle me dit, est-ce que je peux traduire L'Homme Semence ? Mmh. Donc, elle l'a traduit, et puis, quand j'ai fait ma révélation, je lui ai dit, et elle l'a pas forcément très bien pris.
Ah oui.
Voilà, elle me dit, mais Jean, je me sens un peu floué, tu aurais dû me le dire. Mais j'ai dit, mais je pouvais pas te le dire, sinon tu l'aurais peut-être pas fait, quoi.
C'est vrai, voilà. C'est vrai.
Donc, il y a parfois des gens qui ont porté ce livre, qui ont défendu ce texte, je veux dire, aussi bien des libraires, des troupes de théâtre, tout un tas de femmes qui l'ont porté, qui l'ont traduit. Mmh. Et bon, pour la plupart, elles l'ont bien pris, mais parfois, quelques-unes, un tout petit nombre seulement, sont senties un peu...
Un peu trahies. Hein.
Voilà, peu trahies.
Ah oui, c'est...
Donc, je m'excuse beaucoup. Mmh.
Non, mais c'est vraiment intéressant ce que vous racontez. Oui. C'est d'où l'importance vraiment de ce choix. Bon, c'est bien. Puis c'est une émanation de ce que vous êtes. Hein, donc il n'y a pas à en avoir honte. Ça fait partie de vous. Donc c'est vous. C'est parfait.
Dans le Saule Mort, il est question de colonisation, mais il est aussi question de comportement. Comportement vis-à-vis de l'autre quand il est différent, différent dans sa culture, différent dans ses références, dans sa façon d'être. Et il y a, je crois, beaucoup de développement autour de la tolérance. Est-ce que la tolérance peut permettre de construire ? Est-ce que, au contraire, le fait d'aborder les choses en voulant imposer quelque chose, ça se passe plutôt mal. Mmh. Et ce livre, il a une résonance actuelle très très forte, justement,
oui,
dans les relations entre des gens qui, à la base, n'ont pas la même culture.
Mmh. Bien sûr. Hein. Alors, cette nuit de la lecture, quel est son déroulé ? Ça se passe comment ? Puis où et à quelle heure, bien entendu ?
Alors, ça se passe à la bibliothèque de Dax.
Voilà.
Les portes seront exceptionnellement ouvertes. Mmh. Ça commence à 18h30. On va échanger pendant, je pense, en fonction des envies, 1h, 1h30, 2h peut-être, 1h, 1h30, ça me semble bien.
Ou toute la nuit.
Oui, pourquoi pas.
J'en l'arrête plus. Oui. Et puis on va partager un moment sympathique aussi. Je crois que voilà, la ville de Dax a prévu un petit verre de l'amitié après, pour que les échanges se poursuivent, pour que j'en puisse dédicacer quelques exemplaires si quelqu'un veut partir avec un livre, avec une de ces histoires de femmes. Voilà.
Oui.
Et on fera des lectures.
Oui, voilà. Oui. Alors, c'est Jean qui va lire, c'est bien ça?
Oui. Si le sent,
si
oui.
Le sent, oui.
Après, s'il veut un relais, moi, je ferai, mais je ne fais pas bien. Donc, vaut mieux que ce soit lui.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous lire?
Alors là, ça, j'en sais rien du tout. Non, mais il y a quelques extraits. Alors, un livre, c'est difficile de dire tout d'un livre, mais l'idée, c'est plutôt de faire goûter au texte. Hein,
oui.
Comme quand on est sur un marché, on peut goûter à du miel ou à du fromage, quoi.
Oui, oui.
Là, c'est un peu pareil. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire je prends un petit bout, puis je dis, voilà, mais écoutez le son du livre. On l'a en bouche quand on lit, donc c'est un peu comme une nourriture. Mon livre, c'est une nourriture. Mais donc, voilà, on lira des extraits courts, parce que sinon, les gens, là, on lit des extraits assez courts qui peuvent nous, qu'on pense devoir dire des choses, voilà, c'est tout.
Oui,
alors ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que ces quatre romans sont des romans courts. Ce sont des petits opus qui font une soixantaine de pages en moyenne. Donc effectivement, il y a pas un mot de trop. Je crois, c'est ce qui a été souvent dit, ce que c'est souvent entendu, surtout au niveau de l'homme semence. L'homme semence et l'enfant don qui sont complétés par des postfaces historiques, puisque le contexte historique est très très important. Et ce que je voudrais ajouter également, c'est la poésie de l'écriture de Jean Darrow. Où avec l'homme semence, donc on est dans les Alpes de Haute-Provence et où il y a les accents de Jean Giono. Je crois que ça lui a souvent été dit. Moi, ça m'a été dit quand j'ai fait lire le manuscrit de l'enfant don à une autrice qui a une grande culture littéraire. Elle m'a dit mais c'est du Giono. Et ça m'a beaucoup touché et je l'ai rapporté à Jean aussitôt, effectivement. Voilà, donc des petits bouts de Jean Darrow à l'accent du sud-est.
Oui, voilà. Et puis même, c'est peut-être, comment dire, on n'a peut-être pas envie de lire tout devant les gens, parce que ce serait dommage, en fait, de tout dévoiler, entre guillemets. Hein.
Non, mais il faut leur laisser, parce que chacun lit avec sa propre voix, et je crois qu'on peut pas leur lire tout, parce qu'on les prive de quelque chose, quoi. C'est comme si on disait, je goûte à ta place, toi tu touches pas, je goûte à ta place ce plat. Et puis je te dis, c'est très très bon, franchement. Mais non, je pense que c'est à chacun d'entrer dans le livre à sa façon et d'y trouver effectivement du goût de la vie, des connaissances. Et je crois que on peut pas se mettre à la place du lecteur.
Oui, tout à fait. Ouais, chacun.
Sauf des comédiens et des comédiennes.
Ah, donc c'est le travail.
Oui, mais c'était incroyable parce que l'homme semence, je crois qu'il doit son succès. Donc il a 20 ans, l'homme semence.
Oui.
Il a été publié la première fois en 2006. Donc il a 20 ans cette année. Il est énormément joué au théâtre. Il a été joué à la connaissance de Jean, au moins par 40 troupes. Je pense qu'il y en a d'autres. Tout le monde ne le dit pas. Y a beaucoup de lectures théâtralisées. Y en a dans les Landes. Marie Dusplat, qui est une conteuse landaise, le lit régulièrement. Et les femmes s'en emparent. Moi, j'ai eu la chance de voir jouer l'enfant don par deux comédiennes extraordinaires. Mais ça donne une émotion fabuleuse.
Très bien, c'est déjà le moment, de la dernière pause, et on attaquera ensuite la dernière partie de cette émission. On se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà pour la dernière partie de cette émission. Alors bien sûr, avant de se quitter, on va faire les rappels comme il se doit. Cet après-midi, le salon de thé, on va le rappeler. Hein.
Alors il y a deux rendez-vous.
Voilà,
15h30 au salon de thé Tiapo, qui est place de la cathédrale, en face du légionnaire et de son chien. Donc à Dax, rue Saint-Vincent, 15h30 pour un moment un peu cocooning autour d'une tasse de thé et autour de l'ouvrage de Jean Darrow qui s'intitule « La mer, L'AMER,
voilà.
Du thé ».
La mer du thé, voilà.
Voilà, qui nous conduira en Chine et dans l'univers du thé.
Voilà.
Et ça, ce c'est soir, le premier rendez-vous.
Et voilà, ce soir.
Et le deuxième, voilà. 18h30, bibliothèque de Dax, bibliothèque médiathèque de Dax, où là, Jean nous présentera et lira des extraits du Sol mort. Le Sol mort, c'est son dernier ouvrage. C'est la suite de L'homme semence.
Voilà.
Donc, L'homme semence qui est le début d'une écriture d'histoire de femme, une trilogie. L'homme semence, l'enfant don, la femme il.
Voilà.
Si j'ai quelques minutes... Je peux le présenter un peu plus en détail, vous me dites.
Allons-y. Voilà.
On vient d'en parler avec Jean Darrow. Donc, ce que je vais vous lire, c'est l'avant-propos de La femme il, qui donne un petit peu le cadre de ces trois livres qui témoignent de l'intelligence collective vitale des femmes dans des situations exceptionnelles, historiques, géographiques ou de conflit. Il pose également la question des origines. L'homme semence, écrit sous le pseudonyme de Violette Ayot, est la première des fenêtres entrouvertes sur ces sujets. L'histoire se déroule dans un village de Haute-Provence. Les hommes ont disparu du fait de la répression qui a suivi le soulèvement des habitants en 1851 pour défendre la République contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ensuite, Jean Darrow propose l'enfant don. C'est la deuxième fenêtre. Elle nous amène dans une haute vallée des Pyrénées où l'on a longtemps évité le patriarcat grâce à l'isolement et une organisation sociale de type anarcho-communaliste qui appliquait le droit d'aînesse absolu. Par sororité et solidarité sociale, une femme fait un enfant pour une autre femme. La femme, il nous plonge dans la vie d'une communauté de femmes dans une île de Bretagne privée de tous ses hommes par une tempête océanique. Voilà trois situations dans lesquelles les femmes que l'on qualifie parfois de non-battantes.
Oui, voilà, voilà. C'est pour ça que j'avais juste parlé du fils de l'ancien président qui a des problèmes avec la justice. Donc je ne donnerai aucun nom pour des raisons légales et par mépris total aussi. Donc qui se permettait de dire que c'était facile pour les femmes de dire qu'elles avaient besoin d'être reconnues un peu plus, sachant que ce n'était pas elles qui allaient à la guerre. Non, ça c'est quand même un comble.
Voilà. Et donc, ce soir, on évoquera Le Sol mort, qui est la suite de l'histoire de Violette que beaucoup de lecteurs et lectrices, surtout les lectrices, ont réclamé à Jean Darrow après la lecture de L'homme semence. Oui. Mais Le Sol mort peut être aussi lu dans son intégrité tout seul. Il n'a pas besoin de L'homme semence pour exister.
Très bien. Ben, vous savez quoi, c'est dommage, mais voilà, c'est même les meilleures choses ont une fin.
Ah non, mais il y a pas de fin. On se retrouve lors de ces deux rencontres.
Ben voilà. Ben oui, alors j'invite bien sûr les auditeurs à découvrir ça. Et puis alors j'ai vu que Jean était bien remonté. Ça commence à 18h30, mais je crois que lui, il serait capable d'aller jusqu'au bout de la nuit.
Voilà. Oui. Faut pas me faire confiance de ce côté-là.
Très bien. Ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Nous avoir fait découvrir cet univers et c'est voilà. Puis,
l'univers poétique de Jean Darrow dans le mag de Dax. C'est comme ça que la rencontre est intitulée.
Voilà. Très bien. Et ben merci tous les deux d'être venus.
Merci de nous avoir invités.
Voilà. Et bonne nuit de la lecture. Alors.
Merci Jean-Philippe.
Au revoir.